Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Ici, vous le savez, chaque semaine, on explore ensemble les grandes tendances de l'investissement, les stratégies patrimoniales les plus pertinentes et quelques opportunités aussi à ne pas manquer, toujours avec le regard expert, bien sûr, de nos invités. Alors, au sommaire de ce 54e numéro de Cœur de patrimoine, on va démarrer dans un instant avec un article du Code général des impôts qui mérite toute votre attention. Vous l'avez peut-être déjà entendu formuler, le 150 zéro BTR ou 150 OBTR, c'est selon. C'est un outil puissant mais souvent mal connu et pourtant il peut faire une différence dans certaines stratégies de cession. Explication à suivre. Ensuite, coup d'œil sur la French Tech à mi-parcours. Levée de fonds, valorisation dynamique sectorielle, que faut-il retenir de ce premier semestre? On en parle bien évidemment dans Cœur de patrimoine. Et puis, pour finir, zoom sur une innovation dans le monde de la SCPI, un nouveau véhicule qui s'appuie sur le fameux label ELTIF, récemment refondu au niveau européen. Petite révolution pour les investisseurs en quête de diversification. Comprendre, structurer, optimiser, c'est tout l'esprit de Cœur de patrimoine. Installez-vous, l'émission commence.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Aujourd'hui, on parle donc de ce fameux 150 zéro BTR, dispositif souvent réservé aux chefs d'entreprise qui ont cédé leur société, mais il s'impose comme un vrai levier stratégique de plus en plus utilisé pour structurer son patrimoine, investir dans le non compté et optimiser la fiscalité des plus-values. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Charère. Bonjour Yann.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Vous êtes directeur général délégué de Airfund. C'est une plateforme qui est spécialisée dans l'accès aux fonds de private equity. Alors, avant d'entrer dans les usages, on va dire patrimoniaux, parce que c'est ce qui va nous intéresser de ce fameux dispositif. On va essayer d'en reprendre un peu les bases pour tous ceux qui ne l'auraient peut-être pas en tête. Ce 150 OBTR, qu'est-ce que c'est? À qui il s'adresse? Dans quel contexte il s'applique? Enfin voilà, petite fiche pratique.
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est important de reprendre les bases. À qui ça s'adresse? Bah, ça s'adresse principalement aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs donc qui détiennent une grosse partie du capital de leur entreprise, voire la totalité, et qui souhaitent céder. Donc, quand on cède son entreprise, en général, qu'on a développée pendant plusieurs années, on va générer des plus-values de cession qui peuvent être importantes, voire très, très importantes, évidemment, quand on a vraiment démarré de zéro, qu'on atteint des niveaux de chiffre d'affaires ou d'EBITDA, de résultats opérationnels très élevés, on peut générer des plus-values très importantes. Et donc, cette plus-value de cession, en fait, si on détient les titres en direct, bah, tout simplement, on est imposé directement, on va payer ce qu'on appelle la flat tax, qui représente 30% aujourd'hui, qui pourrait augmenter d'ailleurs à l'avenir, dans un avenir proche.
Oui, parce qu'on rappelle que les 30%, ils n'étaient pas figés dans le texte de loi.
Hein,
c'est un double calcul.
Voilà, déjà, l'année dernière, on a eu un premier coup de chaleur, mais là, bon, voilà, ça peut revenir effectivement. En tout cas, si vous cédez en direct, vous allez payer 30% de plus-value. Imaginons une plus-value de cession d'1 million, vous payez directement 30%, donc 300 000 euros. Si vous faites un apport cession, donc qui consiste en fait, avant la cession des titres, à apporter vos titres à une holding que vous avez créée, dans ce cas, vous allez pouvoir bénéficier d'un report de l'imposition sur les plus-values de cession. Alors attention, c'est un report, évidemment.
Oui, on l'annule pas.
L'État ne fait jamais de cadeau, hein, mais c'est un report. Et quel est l'intérêt de ce report, en fait? C'est que sous certaines conditions, notamment de réinvestissement dans ce qu'on appelle l'économie réelle, vous allez justement bénéficier de ce report d'imposition. Donc comment ça marche? Si on reprend notre exemple, toujours, 1 million de plus-value de cession, plutôt que de payer 30% tout de suite, on va avoir ces 1 million disponibles dans la holding et on va pouvoir réinvestir ces 1 million.
Voilà donc le cadre posé. Alors je le disais en introduction, c'est vrai que c'est pas nouveau, ce 150 zéro BTR, il existe. Et bah, finalement, pendant longtemps, il est resté un peu à sa place. À être utilisé ponctuellement par certains, etc. Et depuis quelque temps, on en entend énormément parler et on a l'impression que c'est devenu presque la pierre angulaire de toute bonne architecture patrimoniale. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a eu un tel engouement pour ce dispositif?
Alors, c'est vrai que c'est un mécanisme qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, il faut aussi le temps de la maturité, je dirais. Il a aussi évolué dans le temps, notamment en matière d'actifs éligibles. Donc, c'est ça, je pense, qui l'a rendu aussi de plus en plus attractif. Puisqu'en fait, à l'origine, quand on faisait du 150 OBTR, notamment, c'était pour réinvestir directement dans des entreprises en direct. Depuis pas mal de temps maintenant, on peut le faire à travers des fonds d'investissement, donc dans le non-coté notamment, on y reviendra plus en détail. Et ça, ça permet, en fait, l'intérêt, c'est que là, on va avoir une stratégie patrimoniale de diversification de son portefeuille, de ses investissements. Donc ça, je pense que c'est un des premiers facteurs clés qui explique la popularité de ce mécanisme. Il y en a un autre qui est peut-être lié aussi à la typologie des entrepreneurs qui a évolué aussi au cours de ces dernières années.
Ils sont devenus un peu plus gourmands, un peu plus intéressés à tout ce qui concerne le private equity.
Oui, je pense qu'il y a, d'une part, une tendance générale effectivement à vouloir réinvestir dans l'économie réelle. D'autre part, on a même si c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que l'âge moyen des entrepreneurs qui cèdent a plutôt tendance à augmenter légèrement ces dernières années. Il est de 55 ans en France, mais à 55 ans, on reste encore jeune. Donc quand on a cédé à 55 ans, on peut réinvestir à long terme. On peut faire des choix ambitieux pour son patrimoine, parce qu'a priori, on peut vivre encore 25, 30 ans, 35 ans en bonne santé. Et puis, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui sont beaucoup plus jeunes, en fait. Notamment tous ceux qui viennent de la tech ou des secteurs où l'innovation est très, très forte. On a vu maintenant qu'on n'est plus du tout dans les générations précédentes où on créait son entreprise, où on la cédait à 55 ans. Maintenant, on peut céder son entreprise à 35 ans, à 40 ans. Et donc là, on est encore plein cœur de sa vie. Donc il faut mettre en place des stratégies patrimoniales pour investir efficacement.
Alors, vous l'avez dit, l'idée c'est de réemployer donc les fonds. Et c'est vrai que dans cette idée-là, il y a de plus en plus de produits qui sont proposés par les asset managers et autres. Et c'est vrai qu'il y a le non-coté qui prend une énorme place là-dedans. Pourquoi est-ce que le private equity vous semble particulièrement adapté dans ce fameux 150 obiter ?
En fait, dans le 150 obiter, on n'est pas rentré dans le détail parce que c'est des fiscalistes qui en parlent très bien, mais en général, déjà, vous devez réinvestir 60% de votre plus-value de cession si vous avez apporté vos titres moins de 3 ans avant la cession, ce qui est en général le cas parce qu'on le fait souvent un petit peu au dernier moment. Donc, il y a 60% à réinvestir. Ces 60% à réinvestir, ils doivent être dans des actifs qui financent l'économie réelle, donc je l'ai déjà dit, soit en direct, soit à travers des fonds d'investissement, donc principalement sur du non-coté, et ça répond notamment aussi à des conditions assez strictes sur des sociétés en France ou en Europe, parce qu'on est aussi encadré par une législation européenne. Et donc le deuxième point, c'est qu'il faut conserver ces titres pendant au moins 5 ans quand on investit à travers des fonds. Et en fait, le temps long, c'est le temps du private equity. Donc, c'est là où il y a un match parfait, en fait, entre effectivement ce qu'on appelle le remploi, le 150 obiter et le private equity. Après, ce qui est important aussi, ça va être de sélectionner les bons fonds. Donc ça, c'est une autre histoire.
Ouais. C'est là que vous intervenez, finalement, j'ai envie de dire.
Exactement.
C'est subtilement amené, mais c'est vrai que ce private equity, il faut être capable de l'appréhender, d'aller chercher, en fait, vraiment le meilleur pour, justement, réemploi. Comment est-ce que vous faites, vous, pour la rendre accessible, finalement, cette classe d'actifs qui est souvent un peu réservée à des investisseurs hyper avertis, quand même?
Oui, tout à fait. Historiquement, c'est une classe d'actifs réservée à ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension, des banques pour leurs fonds propres, les assureurs pour leurs fonds propres. Et jusqu'à très peu de temps, aucun particulier ne pouvait accéder à ce type de fonds, sauf à travers des véhicules fiscaux qui ont eu d'ailleurs un peu mauvaise presse dans les années 2010, parce que les rendements n'étaient pas forcément extrêmement performants. Là, ce qui a vraiment fondamentalement changé depuis quelques années, c'est qu'on arrive vraiment à accéder à des véhicules institutionnels, mais pour des clients privés ou même pour des clients, patrimoniaux, à travers des véhicules dédiés. Donc, en fait, on va structurer des véhicules de type fonds nourriciers ou fonds de fonds qui vont permettre d'accéder à ces véhicules.
Et ça, c'est vraiment vous qui le ciselez.
Alors, nous, on va faire la sélection des fonds, les sous-jacents qui nous paraissent les plus adaptés, les plus intéressants. Et on va s'appuyer sur un partenaire tiers, qui a un agrément qu'on appelle AIFM pour gérer ce type de fonds, effectivement.
Chaque fois qu'on parle d'un dispositif, forcément, tout le monde est dithyrambique, ça a l'air formidable, c'est l'outil qu'il faut. Mais à chaque fois, il y a aussi une petite astérisque à mettre pour dire attention, faut le faire d'une certaine façon, attention à tel ou tel piège, etc. Est-ce que justement, ce matin, il y a des points de vigilance ou des pièges à éviter qu'il faut vraiment évoquer une fois qu'on a commencé à lancer un épargnant dans l'idée de pouvoir utiliser ce 150 obiter?
Oui, je pense qu'en fait, le plus important, c'est de se dire finalement, si je n'avais pas ce mécanisme de remploi donc où je dois réinvestir, est-ce que de moi-même, j'investirais dans ce fonds? Ou est-ce que mon conseiller me conseillerait d'investir dans ce fonds? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une offre pléthorique en matière de fonds qu'on appelle de fonds de remploi, hein, donc qui sont éligibles aux 150 obéter. Et ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la stratégie sous-jacente. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle intéresse l'investisseur? Quel est son niveau de risque? Quelles sont les performances passées de l'équipe de gestion? Ouais. Quel est ce qu'on appelle son track record? Depuis combien de temps ils font ça? Parce que faut pas que ce soit un effet de mode. Il faut pas prendre le premier fonds éligible en disant c'est parfait, c'est du 150.
Ouais, il a l'étiquette, c'est bon.
Donc, et il y a des stratégies notamment qui sont particulièrement adaptées. Et en fait, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que le gérant, normalement, il doit avoir sa stratégie de gestion. Ça peut être ce qu'on appelle du LBO, du capital croissance, même de l'immobilier. On peut faire de l'immobilier en 150 obéter. Il faut vraiment regarder sa stratégie sous-jacente. Et après, il ne faut pas qu'il dévite sa stratégie pour être éligible aux 150 obéter.
D'accord. Enfin, ça doit être la cerise sur le gâteau d'un produit qui soit fondamentalement sain.
Exactement.
Juste pour terminer, quand on commence à parler comme ça de cession d'entreprise, d'apport cession, enfin bref, quand on est dans ce monde-là du virage dans la vie de son entreprise, il y a d'autres dispositifs, d'autres mots qui viennent. Alors, il y a apport cession, il y a le Dutreil, comment est-ce qu'on positionne? Il faut choisir l'un et surtout pas l'autre. Enfin, c'est à l'exclusion ou au contraire, il faut apprendre un peu à panacher, j'ai envie de dire. Pour ciseler une architecture patrimoniale hyper efficace.
Ça, en général, c'est les conseillers en gestion de patrimoine dont c'est le métier qui vont guider leurs clients dans la meilleure structuration patrimoniale avec l'aide d'avocats fiscalistes. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas forcément d'exclusivité. Vous pouvez très bien faire du 150 obéter avec un pacte Dutreil. Donc, il y a des mécanismes assez différents. C'est vraiment regarder la situation patrimoniale du client, ce qu'il veut faire, comment il veut transmettre son entreprise aussi, s'il veut si c'est plutôt une transmission familiale, effectivement, il va plutôt falloir travailler sur un pacte Dutreil, ce qui n'empêche pas de faire à un moment donné de la possession. Voilà, donc il faut vraiment voir quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire de son patrimoine,
de son entreprise.
Donc, ce n'est
pas à l'exclusion de...
Non, ce n'est pas à l'exclusion. Alors, il y a le régime des holdings animatrices qui est un petit peu différent, effectivement. Mais voilà, il faut être bien conseillé surtout. Je dirais, il faut être bien conseillé, anticiper aussi, pas s'y prendre la veille de la signature de la cession, parce que là, c'est trop tard.
Ça,
anticiper de quelques mois, voire de quelques années.
Pour tous les sujets patrimoniaux, finalement.
Exactement.
Merci beaucoup, Yann, d'être passé dans Cœur de Patrimoine pour évoquer ce 150 obéter et la possibilité de s'appuyer, effectivement, sur le private equity. Et c'est ce que vous proposez chez Airfund. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci Cédric.
Et nous, on poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Vous en avez l'habitude, on s'intéresse régulièrement à tout ce qui est Frentech avec Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric, merci de l'invitation.
Ravi de vous accueillir régulièrement pour SoWeFund et le podcast bien sûr Tech45 dans lequel on peut vous retrouver régulièrement. Je le disais, on suit cette actualité de la French Tech tout le temps, une fois par mois ensemble, et là on va profiter de la période finalement puisqu'on a terminé le premier semestre, donc on est à mi-parcours et on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, quels sont les grands enseignements de ce début d'année. Il y a du financement, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, mais il n'y a pas que ça, c'est ça?
Oui, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça sera pas un grand cru, a priori, sauf grosse surprise sur la seconde moitié de l'année, Cédric. Mais bon, parlons, c'est vrai, déjà financement. Donc au premier semestre, les startups françaises ont levé environ 3 milliards d'euros. Donc c'est un montant similaire à la seconde moitié 2024, donc là on se dit c'est quand même pas mal, sauf qu'on est quand même en forte baisse par rapport aux plus de 4 milliards du premier semestre 2024. Ça, c'est les chiffres d'Ilroom. Alors, les classements, vous en trouverez plein, mais bon, celui-là fait plutôt référence. En gros, gardez en tête, Cédric, que le marché est entre moins 20 et moins 30% donc sur cette année. Et en gros, il s'est asséché depuis 3 ans maintenant, depuis début 22. Donc, c'est pas terrible.
Est-ce qu'il y a des exceptions ou tout le monde est à la même enseigne?
Heureusement, il y a toujours les exceptions. Notamment, si on regarde le verre à moitié plein, il y a trois scale-up qui ont levé plus de 100 millions d'euros. Et puis, un secteur aussi qui se détache, ça vous intéressera dans Cœur de Patrimoine, c'est la fintech. On en parle de temps en temps sur ce plateau. Elle sort également du lot puisque voilà, désormais, c'est le premier secteur de la French Tech. Il y a 14 licornes, ça, c'est ce que soulignait hier le gouverneur de la Banque de France lors des 10 ans de France Fintech. Uniquement dans ce secteur-là. Et il faut savoir, voilà, ce sont des startups qui ont levé plus de 800 millions, là, entre janvier et juin 2025. C'est un tiers de plus qu'au S1 2024. Il y a eu, on peut citer quand même une ou deux boîtes, le SPAC de United. Je ne sais pas si certains invités vous l'ont remarqué. Donc, SPAC, donc, c'est une cotation directe post, là, pour le coup. Donc, United, c'est l'ex-prêt d'Union. On est sur du prêt au grand public. Ils ont levé 150 millions et se retrouvaient directement cotés. Alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, ça vaut moins d'un milliard. Donc, les licornes, quand elles se cotent, là, ça vaut aussi 700 millions. Mais au moins, là, c'est un vrai prix. La bourse a toujours raison.
C'est ça, oui.
Elle vote tous les jours. Et puis là, l'investissement aussi qui se détache bien, donc dans cette partie fintech, qui est le segment finalement qui a le plus capté ces derniers mois, on voit qu'il y a un vrai appétit chez les jeunes et moins jeunes sur l'investissement au sens large. Et donc, les levées de fonds s'en ressentent.
Est-ce qu'il y a d'autres deals marquants ?
Oui, très clairement. Alors, si je me détache des startups, mais toujours dans la French Tech, il y a le fonds franco-chinois Cathay Innovation, qui a clôturé un nouveau véhicule là, de 1 milliard, uniquement dédié à l'IA. 1 milliard d'euros, c'est juste le plus important de l'Union européenne dans ce domaine jusque-là. Il y en aura peut-être d'autres plus tard, notamment au S2. Et puis côté start-up, parce que je sais que ça vous intéresse, et là encore, c'est un nom qui commence à nous parler, le fameux Mistral AI.
Et oui.
Donc notre ChatGPT tricolore. Alors parfois, on se moque de lui en disant il est moins ceci, ils ont levé moins d'argent, ils ont moins de moyens, etc. Sauf qu'en fait, c'est le seul LLM qui tient la route en Europe. Sinon, ils sont tous chinois ou américains. Et il y en a des dizaines maintenant. Donc là, tour de table exceptionnel de 600 millions, sauf que c'était l'an dernier. C'était en juin 24. Oui, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais la rumeur, qui peut-être sera confirmée dans les toutes prochaines heures, les prochains jours, c'est 1 milliard. Il releverait 1 milliard. Auquel cas, si la rumeur se confirme, ça serait comptabilité au S2, mais ça serait bien.
Vous en pas mal.
Pour 2025, boum, on prendrait un petit milliard en plus. Là.
Ça veut dire que l'IA continue, je ne vais pas dire de faire la course en tête, mais de briller, quoi.
IA, effectivement. IA et Deep Tech, clairement. Donc, quand j'étais venu vous parler il y a quelques semaines de la nouvelle cohorte Next 40 French Tech 120, eh bien, donc ça a été effectivement révélé il y a un mois maintenant à peine. Vous avez 29% des lauréats qui sont des entreprises Deep Tech, 35% qui opèrent dans la chaîne de valeur de l'IA au sens large.
D'accord.
Et quasiment 100%, 97% qui intègrent d'une manière ou d'une autre l'IA, une brique d'intelligence artificielle dans leurs activités. Aujourd'hui, c'est voilà, il y a pas de débat.
Bon, c'est la dernière de la saison entre guillemets ensemble, Sébastien Coinon.
Pas la dernière tout court. J'ai eu peur.
Loin de là. Je sais pas si ce sera plage, montagne ou campagne, mais quelques bonnes nouvelles à embarquer sous le bras pour notre été.
Alors, je vais être généreux, Cédric, j'ai pas une, j'ai pas deux, j'ai pas trois, pas quatre, j'ai cinq bonnes nouvelles.
Bon, alors allons-y.
Donc, accrochez-vous. Donc, le mois de juin déjà, qui a été bien meilleur que mai, avec plus de 500 millions d'euros donc d'argent frais injecté dans la French Tech, dans nos startups. Ça, c'est quand même pas mal. Deux exemples un peu sous le radar. Animage, c'est un repeat entrepreneur, donc un jeune homme Sixte de Vauplane qui avait déjà brillé dans la food tech il y a quelques années, un petit concurrent de Frishti, etc., livraison de plats frais. Là, il se lance dans un truc qui n'a rien à voir. Il veut créer le nouveau Disney, rien que ça.
Bon.
Et il a levé 75 millions d'euros, ça marche très bien. C'est vu sur YouTube notamment, mais pas que Netflix, il y a plein d'accords avec tout le monde. Ça se compte en milliards, donc c'est incroyable. Et c'est français, Cocorico. Et puis Nabla, qui va un peu augmenter nos médecins. Ils ont commencé par les US, parce qu'ils veulent faire une boîte globale. Nabla, ils ont levé 60 millions, ils accélèrent et ils arrivent en France. Donc enfin, nos médecins vont pouvoir avoir du temps, j'avais envie de dire du temps intelligent, plus smart, avec leurs patients, et laisser à l'IA faire les rapports, les lettres de recommandation aux chirurgiens, je ne sais pas qui, quel expert, quel spécialiste. Donc ça c'est intéressant. Plus structurel, Cédric, on voit Paris se transformer comme un vrai hub tech européen. J'en veux pour preuve que l'écosystème est aussi le plus dynamique d'Europe, devant Berlin, mais même devant Londres.
Ça, ah oui. C'est fou, et c'est pas moi qui le dis.
Cocorico.
Exactement, sur certains indicateurs clés. Donc, c'est pas le financement, parce qu'il lève beaucoup plus d'argent que nous, mais sur la valeur d'entreprise. Si vous comparez, il faut toujours prendre un peu de recul. On a fait x5 depuis 2017, hein, entre 2017 et 2024, puisque 25 n'est pas terminé, quand eux ont fait x4 à Londres. Et donc, ça, c'est Dealroom, le même classement là, sur une autre verticale qu'il a remarqué, et qui nous place, nous, donc Paris, donc la France derrière, dans le top 5 global. C'est la seule ville européenne.
Pas mal.
Là, l'incubateur Station F, ça marche très très bien. Vous avez 4 boîtes françaises d'IA qui sortent de l'incubateur, voilà, de voulu par Xavier Niel il y a quelques années et qui accueille 1000 startups, des dizaines de nationalités. Ça, c'est plutôt cool. On n'est pas entre nous, on attire aussi des boîtes qui viennent un peu des quatre coins du globe. Et puis, si on regarde, je vous disais tout à l'heure, le French Tech 120, aujourd'hui, plus de 4 sur 10 sont rentables. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien, parce qu'avant, c'était à peine 3 sur 10. Ça veut dire qu'ils ont entendu le message. Bon, en même temps, ils n'ont pas eu tellement de choix, les entrepreneurs, vu que les financements sont asséchés. Soit, si vous ne pouvez plus lever ou vous levez moins qu'avant, il faut baisser vos coûts, aller chercher d'autres clients et augmenter le chiffre d'affaires. Sinon, tic-tac, on a ce qu'on appelle le runway. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, il faut fermer boutique.
Exactement. Bon, si j'ai bien compté, ça en fait 4. Il en restait une dernière?
Et la dernière, bien sûr, vous savez compter, c'est bien, ouais. Cédric. mais 5, ça va vite, mais il y avait quand même pas mal de bonnes nouvelles. Non, je plaisante. C'est vrai que la dernière est importante aussi. Là encore, ça vient pas de chez nous. Et pourtant, ça va se passer chez nous. C'est un beau symbole que j'ai repéré pour vous récemment. C'est Revolut qui a décidé donc de transférer son siège ouest européen en France en investissant 1 milliard à la clé. Nouvelle preuve de l'attractivité, voilà, de Paris, s'il en fallait, face peut-être à une perte de confiance partielle du Royaume-Uni post-Brexit. Voilà.
Et ben voilà, c'est dit, on part avec une valise bien chargée pour notre été et on se retrouve à la rentrée, bien sûr, Sébastien Coinon, SoWeFund et Tech45, que vous pouvez suivre, bien évidemment. Et nous, on poursuit l'émission de ce matin.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour terminer cette émission, on parle beaucoup d'immobilier en mutation, d'accès difficile au logement, de quête de sens et de performance des nouvelles générations d'épargnants. Et face à ces enjeux, eh bien, certains acteurs essayent de se distinguer avec une certaine ambition. C'est le cas d'Aroxys et je reçois aujourd'hui son fondateur, Ara Adjenian. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Ce marché immobilier, on va l'aborder bien évidemment par le biais des SCPI, cette pierre papier qui a beaucoup fait parler d'elle, cette pierre papier, au cours des derniers mois, des dernières années. Pleine transformation, il y a pas mal d'attentes d'épargnants qui ont changé. Il y a de la pression sur les rendements, parce qu'il y a eu toutes les histoires aussi de baisse de prix de part, etc. Et puis, il y a tout l'ESG, etc. Pourquoi dans ce contexte qui est celui de ce marché de la SCPI un peu particulier, vous choisissez-vous de lancer une nouvelle SCPI et pourquoi maintenant, entre guillemets?
Il y a une vraie mutation du marché, vous l'avez bien constaté, de l'immobilier. L'impact de la crise, l'impact du Covid a vraiment, je dirais, transformé, je dirais, l'allocation, la volonté d'allocation des investisseurs. Donc ça fait 18 mois qu'on phosphore et qu'on regarde un petit peu ce marché de SCPI évoluer. Et on a attendu de voir un petit peu de la stabilisation du marché et de voir un petit peu quels étaient, on va dire, les actifs qui fonctionnaient, les pays, les zones géographiques qui fonctionnaient pour bien se projeter et comprendre un petit peu quelles étaient les attentes des investisseurs, les investisseurs sur l'immobilier, et quels étaient les sujets que les SCPI avaient rencontrés et essayer, on va dire, de cocher toute la wish list qu'un investisseur en SCPI voudrait avoir.
D'accord.
Et donc, même si, en effet, il y a une contraction de la collecte sur les SCPI, c'est notamment à cause des problèmes de la crise, on s'est efforcé, en fait, en réalité, à essayer de combler tous les sujets qu'on rencontrait, je dirais, les SCPI, typiquement. Les investisseurs aujourd'hui sont plus jeunes, ils veulent de l'ergonomie, ils veulent de la transparence, ils veulent aussi une relation directe avec le gérant.
D'accord.
Donc on a essayé de donner accès à tout ça en créant une équipe un peu qui est capable de répondre et être sur les blogs aussi, répondre aux questions des investisseurs en direct, être capable de répondre directement au téléphone. Alors il y aura beaucoup d'investisseurs, ça sera beaucoup de back office, mais
c'est ça, ouais.
Mais c'est ce qu'on veut offrir. Et donc du coup voilà, on a aussi travaillé post-crise l'analyse du marché, et on constate en effet, un peu comme tout le monde, hein, que les valeurs métriques ont baissé. Et donc, c'est un bon cycle pour aller de façon ordonnée sur de nouveau sur le marché de l'immobilier.
Alors, cette SCPI, elle s'appelle NewGen. Elle se positionne comment? C'est quoi son positionnement? Du coup, à qui elle s'adresse et qu'est-ce qui la rend finalement différente, à part le fait qu'on aura les gens au téléphone?
Exactement. Alors, elle se veut résolument européenne, comme d'autres en effet, mais elle est résolument européenne, autant sur l'actif que le passif. Je m'explique. L'actif, on cible l'Europe de façon large, mais aussi et le passif, on est capable en gros de faire investir et d'accueillir des investisseurs de toute l'Union européenne. Et ça en fait une spécificité. Qui permet en gros de potentiellement agrandir la base d'investisseurs et potentiellement d'augmenter la liquidité de la SCPI qui était aussi un sujet. Et nous avons réfléchi en gros et projeté pour aller chercher, c'est une SCPI diversifiée européenne, je vous disais. On a travaillé et projeté les paramètres pour pouvoir aller chercher des zones qui ont bien évolué, regarder un petit peu les actifs et les pays qui sont plus en avance, parce que sur les cycles, le cycle immobilier est reparti, mais tous les pays et toutes les classes d'actifs n'ont pas le même cycle d'évolution. Et donc on a analysé ces cycles et on sait quoi. C'est comme ça qu'on a mis en place une allocation qui nous permet en gros d'avancer de façon ordonnée par zone et par pays. Donc on va d'abord aller dans un pays, travailler le pays, investir dans ce pays-là et passer dans une autre zone et tout ça par pays, par classe d'actifs.
Pas le faire par petite touche, vraiment le faire par...
Non.
Par grande typologie. Il y a dans le vocabulaire de l'investisseur aujourd'hui, et notamment sur les SCPI, un nouveau label qui s'appelle ELTIF, oui. Que vous avez obtenu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'épargnant?
ELTIF, je rappelle l'acronyme, c'est European Long-Term Fund, Investment Fund. Donc c'est de l'investissement long terme, ça colle complètement à la SCPI, qui est un investissement et un fonds de type core, comme disent les investisseurs institutionnels, donc long terme, avec des rendements qui sont censés être stables et résilients. Et donc on s'est attaché donc du coup à bâtir ces locations de façon à ce que la location d'actifs et par pays, par zone, soit long terme, résiliente et stable. Et cet élément ELTIF, en fin de compte, c'est un engagement de d'Aroxys. L'équipe d'Aroxys est composée de beaucoup d'anciens d'investisseurs institutionnels. D'accord. Et en réalité, le ELTIF est un agrément qui met des obligations complémentaires sur des ratios d'emprise et des conséquences des ratios d'emprise, des limites sur de l'investissement indirect. En gros, des contraintes et des règles de bonne gestion qu'un investisseur institutionnel s'impose.
C'est-à-dire qu'en fait, il permet, entre guillemets, d'offrir une gestion institutionnelle à des particuliers?
Complètement. Et il donne une sorte de sécurité aux investisseurs, finalement. Il sécurise complètement, puisqu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, mais on est aussi tout ça c'est drivé par la réglementation, et donc on applique simplement en fin de compte on a toujours fait dans le monde institutionnel en fin de compte, et cela pour les dans le cas d'une SCPI.
Alors dans ceux que vous visez, vous avez dit européen, etc., mais quand on lit un petit peu votre littérature, eh ben on voit que vous ciblez les jeunes actifs, les primo-investisseurs, des investisseurs un peu hybrides. Et comment est-ce que vous arrivez ou comment vous espérez répondre à leur attente? Je le disais en intro, c'est vrai qu'il y a de l'ESG de plus en plus, de l'engagement chez ces épargnants-là. Bon, alors comment vous y répondez en termes de sens? Il y a aussi l'usage, il y a la diversification. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui intéressent ces nouveaux épargnants.
Complètement, l'immobilier, investir dans l'immobilier aujourd'hui devient de plus en plus complexe avec toutes les normes en fait qui viennent s'ajouter, dont l'ESG, dont d'autres normes. Donc l'idée était de mettre à la disposition d'investisseurs nouvelle génération, de jeunes actifs, la possibilité de s'allouer à de l'immobilier, avec en leur offrant la possibilité d'accéder à une valeur de part très basse, 100 euros, et de pouvoir acheter une part, de façon à pouvoir aussi souscrire de façon digitalisée, de faire des versements réguliers, 100 euros par mois, par exemple, pour s'allouer à l'immobilier, c'est tout à fait faisable, de pouvoir réinvestir les dividendes et de pouvoir potentiellement même démembrer pour des parents qui veulent, par exemple, donner aux enfants, bah, ils peuvent démembrer la SCPI. Et tout ça, on l'a fait dès le lancement de la SCPI.
D'accord. Un petit mot de fiscalité aussi, parce que on peut pas parler patrimoine en France sans parler de fiscalité, et notamment avec cette dimension européenne, c'est un petit peu un de vos mantras, c'est de dire que la fiscalité sera plus douce parce que certains revenus seront générés hors de France. Ça veut dire qu'il y a des implications pour l'épargnant, implications fiscales?
Il y a complètement une implication fiscale. Évidemment, il y a un intérêt pour l'épargnant français. Le citoyen français qui investit dans la SCPI, juste pour vous rappeler, la TMI, donc la tranche marginale d'imposition moyenne d'un contribuable français payant de l'impôt en France, elle est 30%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qui veut dire, en fait, qu'en gros, quand les revenus fonciers sont taxés à hauteur de, à peu près 47%. Ça, vous le comparez à un investissement en immobilier. Si la SCPI investit, par exemple, en Allemagne, elle paye 15%. Au plus haut, si on investit en Italie, c'est 31%. Et en moyenne, en Europe, c'est 25%. Ce qui veut dire que la fiscalité française, elle est 2 à 3 fois plus importante que la fiscalité européenne. Donc, d'où l'avantage pour l'investisseur français qui investit dans cette SCPI.
Bon. On arrive au terme de l'entretien. Alors, je vais vous demander de pas être trop commercial, mais c'est toujours un peu sympa d'avoir une phrase à retenir, entre guillemets, si je vous demande de résumer un petit peu tout ça en une phrase pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent mémoriser cette SCP New Gen, ce serait quoi?
En fait, je dirais que offrir une expertise institutionnelle, c'est pas que des mots, c'est une responsabilité. D'accord. Et ça devient une réalité avec cet agrément ELTIF.
Eh bien, merci beaucoup, Ara Adjenian, donc, pour Aroxys, dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Et merci d'être passé. Cœur de Patrimoine, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, d'être là chaque semaine au